Radio Kaléidoscope 97 FM présente Au ras des rues, l'émission qui prend de la hauteur.
Bonjour, nous sommes le vendredi 21 octobre, vous écoutez Au ras des rues, l'émission qui prend de la hauteur sur Radio Kaléidoscope 97 FM. Alors Au ras des rues, c'est l'émission qui parle des quartiers sud de Grenoble. Et comme d'habitude, on a l'équipe habituelle aujourd'hui avec Morgane.
Bonjour.
Benjamin.
Bonjour.
Sabrina.
Bonjour.
Et Marie-France.
Bonjour.
Sans oublier Yannick à la technique, en solo.
Et Antoine.
Aujourd'hui. Et bien sûr, moi-même, Antoine, pour la présentation aujourd'hui. Alors, je vous rappelle que vous pourrez réécouter cette émission mercredi prochain, de 11h à midi, donc rediffusion. Ou sur le podcast du Crieur, en podcast pardon, sur le site du Crieur, www.lecrieur.net. Vous pouvez aussi nous contacter par mail à auraderu@lecrieur.net ou directement sur notre page Facebook auraderu-rks97fm pour nous pour nous parler un peu de l'émission, ce que vous en pensez, quel sujet vous aimeriez qu'on aborde, un petit peu pour échanger. Alors, au sommaire de l'émission, aujourd'hui, on va parler de l'agenda du Crieur, d'un atelier de concertation sur la rénovation urbaine, de la lutte contre la fermeture des bibliothèques, des universités populaires qui se tiennent à la Bourse du Travail, de Carignan et de la Villeneuve, de la course qui est prévue pour le parc, dans le parc Jean Verlac, donc le parc de la Villeneuve, les résultats du budget participatif qui ont eu lieu le week-end dernier, un article du Monde qui parle sur la rénovation urbaine à la Villeneuve. Morgane nous parlera aussi du PUCA. Donc, il expliquera un petit peu ce que c'est et où est-ce que tu étais en début de semaine. Et ensuite, Benjamin, on finira avec... tu nous mettras un peu l'eau à la bouche pour l'émission de la semaine prochaine. Avec un petit enregistrement, un petit teaser. Voilà. Et on commence maintenant avec l'agenda du Crieur.
Alors oui, à l'agenda du Crieur de la Villeneuve, on commence avec aujourd'hui, vendredi 21 octobre, une soirée au Baratin. Donc le Baratin, c'est le café associatif situé au Patio 97 Galerie de l'Arlequin. La soirée commence à partir de 20h, donc juste à la fin de cette émission. Et c'est une soirée karaoké avec Yves qui sera au platine pour une soirée mémorable, je l'espère. On enchaîne toujours au Baratin, cette fois-ci vendredi 28 octobre, avec une soirée Halloween. Halloween ça tombe donc le 31 octobre et donc une soirée spéciale Halloween avec deux DJ du quartier de la Villeneuve qui viendront mixer pour tous les habitants, donc c'est à partir de 20h. Et puis pour finir toujours le Baratin, hein, c'est un agenda très très Baratin aujourd'hui, avec samedi 29 octobre à partir de 10h le grand retour des cafés philo. Alors les cafés philo, ce sont des moments conviviaux qui avaient existé dans le quartier dans les années 90, où les gens se réunissaient pour discuter de sujets philosophiques. Ils ont fait leur retour cette année, l'année dernière, en 2016, fin 2016.
15.
Non, pardon, fin d'année scolaire 2015-2016, au Baratin. Et donc, pour la première de cette année, ça sera le thème « Comment concevoir une société sans argent ?» Voilà, c'est donc un vaste sujet. C'est au Baratin, le samedi 29 octobre, à partir de 10h.
Eh bien, très intéressant. Merci, Benjamin. Est-ce que tu veux nous parler de l'atelier concertation auquel tu as participé ?
Oui, alors, en fait, c'est un atelier qui a eu lieu mardi soir, le 19 octobre. En fait, c'était un atelier, 18 octobre, un atelier sur la rénovation, de concertation sur la rénovation urbaine qui a fait suite à l'atelier qui était programmé le 28 septembre. Donc il faut savoir qu'il y a des gros projets de rénovation urbaine sur le quartier et un atelier de concertation avec les habitants avait été programmé le 28 septembre pour qu'ils puissent expliquer les projets qu'ils voudraient voir créer dans le quartier. Sauf que ce projet, l'atelier qui avait été prévu le 28 septembre a été annulé puisque Il y avait une forte mobilisation des habitants devant le patio, puisqu'on avait appris que l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine, souhaitait démolir certains bâtiments du quartier. Donc il y avait cette manifestation avant l'atelier, et puis l'atelier s'était transformé un peu en réunion publique débat entre les habitants et l'équipe, le cabinet d'architectes qui pilotait l'atelier. Donc l'atelier n'avait pas pu avoir vraiment lieu. Et donc une nouvelle session a été programmée, donc c'était donc mardi dernier. Et c'était un travail de réflexion qui a été piloté par le cabinet d'architectes, donc Passagers des Villes. C'était des habitants, donc on était répartis sur trois tables de travail. Il y en a deux qui travaillaient sur l'espace qui allait être libéré par la démolition de l'ancien Collège des Saules. On en avait déjà pas mal parlé au cours de cette émission. Hein. Donc le Collège des Saules qui est à cheval sur le territoire de la commune des Bains et de Grenoble. A été reconstruit juste en face, et l'ancien collège des Saules va être démoli, et donc ça va libérer un grand espace à l'est de la Villeneuve. Et la question est de savoir qu'est-ce qu'on va construire à la place, et si on va construire d'abord, et qu'est-ce qu'on va construire à la place de cet ancien collège. Donc deux groupes d'habitants ont travaillé sur le sujet, et puis sur l'articulation de la place des Géants avec l'est de Grenoble, enfin le sud-est de Grenoble et l'ouest de Saint-Martin-d'Hères. Et puis, un autre groupe d'habitants a travaillé sur les équipements de la Villeneuve. Alors, en fait, on avait une grande carte du quartier avec tous les équipements, donc les maisons des habitants, la piscine, il y avait les écoles, enfin, tous les lieux un peu publics du quartier. Et on devait mettre des pastilles de couleurs selon qu'on trouvait que l'équipement était intéressant ou pas. Donc, pastille verte était équipement attractif et fonctionnel. Pastille bleue, c'était « je ne connais pas cet équipement ». Pastille violet, c'était « pas assez visible ». Pastille orange, c'était pas attractif, mais avec des dysfonctionnements. Pastille rouge, pas du tout attractif. Et pastille jaune, pas pratique. Voilà.
Alors, j'ai une petite question sur la piscine. Quelle était la pastille majoritaire? Alors, attends.
Ce qu'il faut savoir, c'est que la piscine n'était même pas marquée. Elle était déjà plus marquée dans les équipements publics. Alors, quand on a fait la remarque, parce que oui, alors, pour rappeler à nos auditeurs, la piscine Iris, la piscine du quartier de la Villeneuve, a été fermée en juin 2015 par l'équipe municipale. Et du coup, il n'y a toujours aucun projet sur cet ancien bâtiment. Et donc, cette piscine n'apparaissait même plus dans les équipements publics sur la carte que nous proposait le cabinet d'architectes. Donc, on a quand même fait la réflexion. Ils nous ont dit « Ah oui, c'est vrai, c'est un oubli. Vous pouvez mettre des pastilles quand même. Voilà. » Donc, c'était assez intéressant dans les débats. Après, on peut noter quand même un gros problème, c'était une absence totale de réflexion globale, en fait, puisqu'on devait par exemple réfléchir sur chaque école, est-ce qu'elle était attractive ou pas, alors qu'il n'y avait pas de réflexion globale sur les écoles, ce qui aurait été quand même un bon sens. Il y a quand même quelques idées qui ont émergé des discussions, notamment sur la place des Géants. Il a été proposé de combler la tranchée, qui est en fait la rue du 8 mai 1945, qui est en contrebas de la place des Géants. Et en bas des parkings de la place des Géants, il a été proposé de la combler, de détourner un peu le bus pour faire un nouvel espace sur cette place. Voilà.
Eh bien, merci Benjamin. Marie-France, tu voulais nous parler de la lutte contre la fermeture des bibliothèques.
Voilà, le mouvement continue. Hein. Ça avait commencé donc avant les vacances, bien avant les vacances, avec cette annonce de ce qui avait été appelé le plan de sauvegarde des services publics, dans lequel il y avait, on annonçait la fermeture de trois bibliothèques. Deux bibliothèques enfants à Auclin, au centre-ville, et la bibliothèque Prémol sur le quartier du village olympique, ainsi que la bibliothèque de l'Alliance sur le quartier de l'Alliance. Et donc le mouvement a repris, hein, en particulier donc autour de la bibliothèque de l'Alliance, qui est un équipement un peu plus important. Il y a une forte mobilisation des habitants. D'après ce qu'on nous avait dit, ils n'avaient pas l'habitude de se mobiliser. Le vendredi 7 octobre, il y a eu à midi une rencontre entre des habitants, des représentants des unions de quartier, des bibliothécaires et puis des syndicats. C'était la première fois que tout ce monde-là était réuni ensemble et à la bibliothèque L'Alliance. Et les syndicats étaient présents également donc pour réfléchir à la suite du mouvement. Le samedi 15 octobre... D'abord, il y a eu le samedi 8 octobre où il y a eu une grève des bibliothécaires qui était prévue à l'occasion de l'inauguration officielle du Mois des petits lecteurs, qui est une animation qui a lieu dans le cadre de l'ensemble des bibliothèques de Grenoble. Donc, une mobilisation toute la matinée et jusqu'à l'inauguration officielle à 11h au Théâtre Sainte-Marie d'en bas, rue Trécloître. Le samedi 15 octobre, nouveau rendez-vous à la Maison des Initiatives Avenue Léon Blum. C'était le thème, la Bibliothèque de l'Alliance. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Tous les habitants, usagers, acteurs de quartier, il y avait une réunion de concertation pour lutter contre la fermeture prévue en 2017, puisque cet équipement est toujours ouvert pour l'instant. Donc, à nouveau pour faire le point sur les actions engagées et définir ensemble un plan d'action. Le thème, le slogan était « La bibliothèque, la fermeture de l'Alliance, nous n'en voulons toujours pas ». Et il y a eu des distributions de tracts également le samedi 15, un tract fait par les bibliothécaires et les syndicats et les bibliothécaires en lutte. A été annoncé également le prochain rendez-vous de mobilisation. Ce sera le lundi 7 novembre à la mairie à 17h30 pour le prochain conseil municipal. Voilà. Donc, on peut dire que la lutte continue, en tout cas autour de la bibliothèque de l'Alliance et les gens qui se sont mobilisés sur le village olympique pour la bibliothèque Prémol sont présents également.
Merci Marie-France. Donc, on retient la date du 7 novembre pour le prochain conseil municipal.
17h30
devant la mairie. 17h30, à perturber.
Je ne sais pas.
Donc, on va passer avec une petite pause musicale avec le groupe de Halalas. Groupe formé en 2008, il joue une pop ensoleillée, nostalgique, optimiste, qui nous convie au voyage et à la rêverie, avec le titre Catamaran. Et je tiens à préciser que la sélection musicale a été faite par notre fidèle auditeur du nom
Armand.
De Armand. Merci Armand.
Thank you.
Nous revoilà sur Radio Kaleidoscope, l'émission Aura des rues, l'émission qui prend de la hauteur. Alors, Marie-France, tu voulais nous parler de l'université populaire qui se tient à la Bourse du Travail.
Oui, l'université populaire, on en a parlé la semaine dernière avec Philippe André. Elle propose chaque mois à peu près des rendez-vous réguliers, en tout cas le jeudi entre midi et deux, pour que les gens qui travaillent puissent venir, des films et des documentaires en général, et un rendez-vous avec un réalisateur ou un intervenant, un conférencier. Et donc, mercredi 19 octobre, c'était en principe, on avait annoncé le film sur l'Équateur, la suite d'un premier film qui avait été également diffusé à cet endroit il y a 2 ans, je crois. Opération Coréa, c'était Coréa, le président de l'Équateur. Et c'était un documentaire sur le traitement des... Comment les grands médias traitent la venue d'un président de gauche en France. On n'en a pas beaucoup parlé. Et comment ils étaient un petit peu ignorants de tout ce qui se passait là-bas. Et la suite de ce film, c'est donc Opération Coréa numéro 2. Le titre, c'est On revient de loin. Et cette fois-ci, l'équipe du tournage est allée en Équateur tourner sur place et voir ce qui se passait réellement. Donc, en fait, ce film donc n'a pas été passé parce qu'il est assez long. Il est passé en salle la veille au club et il repassera en novembre puisque c'est sa sortie officielle. Mais par contre, Pierre Carles était là, le réalisateur du documentariste. Et donc, nous avons vu avec lui le film, un autre film, Hollande, DSK, etc., qui est un passionnant documentaire sur comment... au printemps 2012, en pleine campagne des élections présidentielles, une équipe de choc s'invite chez les notables de la presse parisienne pour les interroger sur le traitement de faveur dont il gratifie François Hollande depuis les premiers jours de sa candidature. Alors, en plébiscitant le prétendant socialiste et Nicolas Sarkozy, au détriment des autres candidats dont on ne parle pas, les responsables de l'information ne sont-ils pas en train de préempter l'issue du jeu électoral ? Hollande, on se rappelle, sera-t-il les consoler de l'effondrement de l'ancien favori Dominique Strauss-Kahn ? Voilà. Confrontés aux preuves de leur parti pris, les directeurs de journaux, les éditorialistes très connus et des petits soldats du journalisme se cabrent, se défaussent, se récrient, s'énervent et parfois se dévoilent. Donc toute un documentaire instructif sur la façon dont fonctionnent les grands médias, la façon dont pratiquement ils fabriquent les résultats des élections en avant. Il avait fait aussi, Pierre Carles, un autre documentaire, Juppé forcément, qui montrait comment, pour l'élection du maire de Bordeaux, pratiquement les choses étaient jouées d'avance, vu la façon dont les grands médias présentaient cette élection. Voilà. Les films sont autoproduits parce que Pierre Carles, qui nous a commenté un peu tout ce travail de recherche documentaire et d'analyse de fonctionnement des grands médias, était devenu célèbre en démasquant la fausse interview de Fidel Castro par Patrick Poivre d'Arbor. On se rappelle, il y avait eu un montage, mais en fait, l'interview n'avait jamais... Patrick Poivre d'Arbor n'avait jamais rencontré Fidel Castro, mais on a présenté son interview. En 98, Pas vu, pas pris, un documentaire commandé par Canal+, sur la connivence média-pouvoir, ne sera finalement pas présenté. Voilà. Et d'autres documentaires aussi qui n'ont pas été diffusés, donc qui diffusent par Internet et sur vidéo seulement. Voilà.
On peut juste rappeler que tout le programme de l'Université populaire de la Bourse du Travail est donc sur le site du CRIEUR de la Villeneuve, dans l'agenda.
D'accord.
Enfin, tout le programme, les dates connues, donc jusqu'à janvier.
Eh bien,
voilà.
Merci, puisque justement, en fait, l'Université populaire se passe sur le quartier, à la Bourse du Travail. On va passer avec toi, Benjamin, et des nouvelles de Carignan.
Oui, alors on change un peu de bord politique, hein. Puisque lundi 17 octobre, les membres de l'équipe Les Républicains de Grenoble c'est-à-dire le fan club d'Alain Carignon, ils ont tenu une conférence de presse et ils ont proposé un projet pour Grenoble qui s'appelle « Oui au second souffle ». Alors dans cette longue tribune, il part de la Villeneuve. Je vais vous lire un petit extrait. Ainsi, nous proposons d'installer l'hôtel de ville et le maire à Villeneuve dans des logements HLM transformés en bureaux afin de rééquilibrer le quartier. Les mariages se déroulent au jardin de ville à l'ancienne mairie. L'hôtel de ville étant mis sur le marché. C'est une politique générale que nous voulons mettre en place, loger les services municipaux dans tous les quartiers en difficulté, dans des logements HLM transformés en bureaux, plutôt que dans le siège d'une banque comme cela a été fait avec le siège du Crédit Agricole. Il s'agit de rééquilibrer les quartiers, revaloriser la valeur des biens qui s'effondrent, soutenir les propriétaires afin qu'ils ne fuient pas le sud de la ville, stopper la paupérisation. Alors pour les auditeurs les plus jeunes qui nous écoutent, ou pour ceux qui ont la mémoire un peu courte, petit rappel sur Alain Carignon. Alain Carignon est né en 1949 à Vizille. Il est diplômé de l'IAE, l'Institut d'administration des entreprises. Il travaille d'abord à la Chambre de commerce avant de rejoindre le Conseil général de l'Isère comme chargé de mission. En 1983, à la surprise générale, il remporte l'élection municipale à Grenoble en battant Hubert Dubedoux, le fondateur de la Villeneuve. Le début d'une ascension fulgurante dans les sphères politiques et dans le cumul des mandats. En plus d'être maire, il devient député européen et président du Conseil général, puis ministre, puis à nouveau député, puis à nouveau ministre, tout en se faisant réélire maire de Grenoble entre-temps en 1989. Mais en 1994, patatras, il est mis en examen dans une affaire de biens sociaux. L'enquête révèle que deux journaux ont été lancés en 1989, juste avant les élections municipales, journaux qui soutiennent sa candidature. Une fois Carignon réélu, les deux journaux disparaissent, laissant un trou de 10 millions de francs dans les caisses. Heureusement, la Lyonnaise des Eaux éponge les dettes des journaux, Lyonnaise des Eaux qui vient d'obtenir le contrat qui privatise l'accès à l'eau à Grenoble, comme c'est gentil. En 1996, Alain Carignon est donc condamné à 5 ans de prison pour corruption, abus de biens sociaux et subordination de témoins. Il va passer 2 ans et demi derrière les barreaux, record de France pour un homme politique. On peut l'applaudir peut-être. Ah. Depuis, il essaye de revenir sur le devant de la scène politique locale. Il a essayé de devenir député, puis conseiller municipal à Grenoble, les deux fois sans succès. Alors maintenant que nous avons posé le personnage, retour sur sa proposition, qui est, je le rappelle, d'installer l'hôtel de ville à la Villeneuve. Nous, aux crieurs, on trouve l'idée plutôt bonne. Mais ce qu'on reproche à Alain Carignon, c'est son manque d'ambition. Nous militons plutôt pour une Villeneuve indépendante, la commune de la Villeneuve. Forte de ses 10 000 habitants, de ses 42 nationalités, de ses 5 écoles et de ses 2 collèges, de ses clubs de sport et de ses innombrables associations, de sa ZFU, de sa patinoire, d'Alpexpo, de la moitié de Grand Place, de sa bourse du travail, la Villeneuve deviendrait sans rougir la 10e plus grande commune de l'agglomération grenobloise. Sans compter que la Villeneuve se trouve exactement au centre géographique de la métro. Avec tout ce qu'a entrepris Alain Carignon pour le quartier, nul doute que les Villeneuvois voteraient en masse pour lui comme maire de la Villeneuve. Alors certes, la Villeneuve n'est pas Grenoble, mais ça serait déjà un tremplin pour son retour. Et puis Alain Carignon aurait toujours la possibilité de privatiser l'eau du lac. Bref, en 1989, Carignon voulait rénover le RPR. En 2016, il veut rénover le Tartare.
Merci Benjamin. Je vous propose de faire une petite pause musicale, à moins que quelqu'un veuille commenter un petit peu... Le petit speech de Benjamin, non,
merci. Non, on est sous le choc de la nouvelle.
J'ai l'impression que tout a été dit, merci. Alors, pour ceux qui connaissent This is la peste, par son prisme Je pète les plombs, enfin son célèbre tube, depuis This is la, il a grandi et il a appris à écrire d'autres chansons. Le titre qui va suivre en fait partie, c'est impressionnant de pertinence et de poésie, avec distance et sans l'ironie qui fit son succès dans les 90s. À noter le très bon clip de la chanson, donc vous n'aurez pas forcément sur la radio, qui met en scène une famille de classe moyenne et qui va faire un tour dans un train fantôme. Et en fait, ce train, c'est un train de banlieue qui traverse tous les clichés sur les jeunes de banlieue. Rapport tendu avec la police, rap, argent facile et voiture brûlée. On écoute This is la peste, jeunes de banlieue.
J'ai souvent la pêche, tout le temps la banane. Un sourire au milieu du faciès. je viens d'un TX, les coups durs, je les encaisse, t'inquiète, je fais ma quête, je ne cesse de relever la tête. Pour ce texte, franchement, je vais pas faire des jolies phrases, ni des jolies phrases, je veux juste que tu saches, c'est que si je suis sage, et que mon message, c'est l'appel à pour la foi de ces trois mots, je suis otage. J'ai le syndrome de Stockholm, je me dois en tant qu'homme, de rester fort et dur, même si la vie déconne. J'ai des sous, c'est vrai, mais j'ai aussi des soucis. Écoute mon album du blé, tu verras qui je suis. Ce qui m'inspire, c'est les films et les livres, notamment Gloria, l'alchimiste et l'esquive. J'étais qu'un jeune de banlieue, maintenant je vends des disques et des films. Mais je suis toujours un jeune de banlieue, à leurs yeux, tous ceux qui me parlent avec condescendance, qui croient faire des blagues toutes pérables, on n'a pas le même sens. Ni de l'humour, ni de l'amour, et pour la France, peu importe ce que je ferai, à jamais dans sa conscience. J'ai qu'un jeune de banlieue, un jeune de banlieue, un jeune de banlieue. Un jeune de banlieue, un jeune de banlieue. J'ai beau me cultiver, mes aptitudes me trahissent. On sait que je viens d'ici, donc on m'écarte la liste. Ils me catégorisent sur mon milieu théoriste. Mais je pars en quête de la terre promise comme Moïse. Au début, j'essayais de camoufler mon accent banlieusard. Mais quand je m'entendais parler, je trouvais ça bizarre. Est-ce que l'Auvergnat a honte de son environnement? Alors pourquoi devrais-je avoir honte de mon bâtiment? Pourquoi les artistes de chez nous n'ont pas leur part entière? Est-ce que Jamel aura le même rôle sa vie entière? J'aime pas me faire du fric sans la misère, mais je te jure mes galères, j'en suis fort et j'en suis fier. Je suis fier de là où j'ai grandi. Y'a pas que des taudis, y'a quelques bandits. Mais on vit, qu'est-ce que t'en dis? Je suis fier d'être un jeune de banlieue. Ce qu'ils montrent de chez nous est faux. Je suis fier de mon milieu et je suis qu'un jeune de banlieue. Un jeune de banlieue, un jeune de banlieue. Un jeune de banlieue, un jeune de banlieue. J'entends souvent perdu d'avance, chez nous les gens sont défaitistes, car notre histoire a beaucoup de cicatrices. Est-ce parce que je suis artiste que cela me rend triste? Tout le monde devient raciste, car les coups durs insistent. Et si j'insiste, c'est simple, c'est que le système, ce qui nous inflige n'est pas juste, mais système. C'est que chez toi, je peux lire et je peux parler. Je peux écrire et mes enfants, je pourrais les regarder. C'est un jeune de banlieue, je sais que je fascine, parce que là d'où je viens, réussir n'est pas facile. Je garde les stigmas, ce milieu de ma pommade. J'ai beau m'en débattre, parfois c'est dur, il me faut de la pommade. On est comme des nomades, au-delà de nos cités, beaucoup de gens nous regardent comme si on allait partir, mais on n'est pas des nomades. On vit ici avec vous, on n'est pas des nomades. Et c'est toujours la même image, le king de le rage. La banlieue ne fait que rire ou que peur et c'est dommage. Il y a plein d'autres choses pour l'amour, on a nos codes, on sait aussi le célébrer. Sans drogue et sans alcool, j'ai des intenses instantanées de bonheur pendant tant d'années, de rire, de solidarité pendant que vous nous condamnez. Banlieusard, tu n'es pas là pour rien. Et sans faire, c'était un jeune de banlieue. Je suis un jeune de banlieue, un jeune de banlieue, un jeune de banlieue. Je suis un jeune de banlieue, un jeune de banlieue, un jeune de banlieue.
Vous êtes toujours sur Aura des rues, l'émission qui prend de la hauteur sur Radio Kaléidoscope. Et on va enchaîner avec Sabrina et la course dans le parc de la Villeneuve.
Alors, une réunion s'est tenue le mardi 27 septembre au patio au sujet de l'organisation d'une course, ou trail urbain comme vous voulez, à travers la Villeneuve, qui devrait avoir lieu le samedi 8 avril 2017, à marquer dans son agenda. Alors, trois salariés d'Actis, eux-mêmes coureurs, sont à l'origine du projet. Ils ont tenu à préciser qu'ils travaillaient sur ce projet de manière bénévole et non pas à titre professionnel pour Actis. Selon les organisateurs, cet événement est organisé afin de pouvoir changer l'image négative qui est collée au quartier, une manière de se réapproprier le quartier et d'améliorer son image. Alors, la course sera composée d'un parcours de 5 km, d'un parcours de 10 km et d'un parcours de marche. Les participants effectueront un des parcours au choix. Les organisateurs ont exprimé la volonté de rendre ces parcours accessibles aux personnes à mobilité réduite et aux personnes âgées. L'objectif est d'amener tout le monde à cette journée festive. Une proposition a été faite d'un départ et d'une arrivée sur l'allée des Tilleuls. stratégique du point de vue historique du quartier. Le parcours traversera ensuite le quartier de l'Arlequin, les Baladins et la place des Géants, ainsi que le parc, ce qui permettra de découvrir ou de redécouvrir le quartier et son patrimoine magnifique. Différentes récompenses seront proposées aux gagnants. En parallèle, il y aura des buvettes et un concert en fin de journée. Cette journée est une journée de rassemblement des habitants et des associations afin de faire connaître le quartier aux personnes extérieures. Actis a été sollicitée comme partenaire financier et elle financera la course. Comme nous finançons d'autres projets, a dit le directeur de Actis, comme la fête de quartier. Le comité a besoin de bénévoles pour participer au bon déroulement de l'événement.
Merci Sabrina.
Et du coup, est-ce qu'on peut s'adresser pour être bénévole
À la régie de quartier, avec Jouda.
Okay. La régie de quartier, c'est située dans l'ancienne école des Charmes, au 17 Galerie de l'Arlequin.
Voilà. Juste à côté de l'arrêt de tram de la Bruyère.
On va enchaîner avec le budget participatif. Donc, on a pas mal parlé quand même cette émission-là. Donc, c'est l'idée de mettre un budget. Là, c'était 800 000 euros où justement les habitants de la ville de Grenoble pouvaient décider, habitants de plus de 16 ans, peu importe la nationalité, du moment qu'on était résident de Grenoble. Donc, les résultats, il y a eu les votes toute la semaine dernière. Les résultats sont tombés samedi soir. Et alors, les grands gagnants, donc il y avait deux catégories de projets, il faut savoir. Il y avait un gros projet de plus de 100 000 euros, entre 100 000 et 400 000 euros, et des petits projets, donc inférieurs à 100 000 euros. Donc, dans les projets lauréats, il y a le végétaliser le cours Jean Jaurès. Donc, c'est un projet qui est à hauteur de 125 000 euros de mémoire, je dirais. Et ensuite, pour ce qui est des petits projets, je vais les énumérer rapidement. Toilettes publiques dans les parcs, aménagement piétonnier de la rive droite du Drac, plus de chaises dans les rues, des boîtes à livres dans Grenoble, les pigeonniers contraceptifs, des vélobus, coup de pinceau au carrefour Chavant, jardin partagé pour tous à l'abbaye, restaurer une partie du cycle naturel, c'est un projet de compostage, aménagement de la télévélo de la Villeneuve, on va en parler un petit peu, verger promenade et améliorer l'accessibilité de la rue Gabriel-Péri. Voilà. Donc, pour ce qui concerne finalement le secteur 6 et la Villeneuve, il y a un projet qui a été retenu, c'est l'aménagement de l'atelier vélo, donc atelier pignon sur rue, qui est ouvert il n'y a pas si longtemps que ça. Pignon sur roue, pardon. qui a ouvert il n'y a pas si longtemps que ça et qui est un peu qui n'a pas beaucoup de place finalement dans cet atelier, dans les anciens locaux d'Osmose.
Dans les locaux actuels d'Osmose.
Et qui souhaitait agrandir un petit peu le local. Et ils ont obtenu leur projet. Donc on est content pour eux. Mais bon, il y a d'autres projets qui n'ont pas eu cette chance. On pense à la cuisine au lac, au four à pain. On pense aussi au multisport nocturne à la Villeneuve ou encore le gros projet de revalorisation du lac. On a un petit peu analysé avec Benjamin les résultats du vote.
D'abord, ce qu'on peut remarquer, c'est que c'est surtout des projets qui sont un peu dans le même domaine qui ont été retenus, c'est-à-dire dans le domaine soit des vélos, des cycles, soit dans le domaine écolo un peu, donc jardin partagé, verger, ce genre de choses. Donc c'est des projets assez similaires en fait qui ont été retenus, et les projets un peu qui sortaient un peu de ce cadre-là n'ont pas forcément été sélectionnés.
Ouais. Et en même temps, dans les projets présélectionnés, puisque en fait la liste de projets qu'il y avait au vote la semaine dernière, il y avait déjà eu une présélection et ces projets-là étaient déjà un petit peu orientés aussi. Il faut recontextualiser un petit peu. Donc au niveau du bilan, il y a eu plus de 6000 votants contre 1000 l'année dernière, donc je pense qu'au niveau de la municipalité, ils sont assez contents. Ils ont aussi évité la pétition citoyenne, puisque je rappelle qu'il n'y avait pas que le budget participatif, mais aussi un petit rappel, une pétition citoyenne. La ville considérait que s'il y avait plus de 20 000 votants contre, en l'occurrence il y avait deux, il y en avait une qui concernait les parkings, l'augmentation des parkings, des parcmètres. Et la deuxième, je ne l'ai plus en tête. Et s'il y avait plus de 20 000 votants contre cette décision du conseil municipal, ils annulaient tout simplement leur décision. Sachant que l'année dernière, il y avait eu 1 000 votants, je ne suis pas sûr qu'ils aient pris beaucoup de risques là-dessus. Mais bon. Sinon, j'ai essayé d'analyser un petit peu les chiffres et à voir qui avait voté et sur quel secteur. Et donc j'ai repris les 6 secteurs de la ville et j'ai remarqué que ça avait été surreprésenté au niveau du secteur 1 avec la MDH Chaurier-Béréa.
Alors on peut juste rappeler que le secteur 1 c'est tout le nord-ouest de Grenoble, donc c'est le quartier Béréa, Europol, le quartier
voilà,
de la Gare,
remonte, Saint-Bruno. Tout au nord-ouest exactement avec la petite pointe et du coup le Saint-Cotron. Pour ce qui est du centre-ville, donc la MDH du centre-ville, il y a eu quand même des votants, mais ce n'est pas ce qui a été le plus représenté. En fait, j'ai fait un petit ratio entre, pour ce qui concerne le vote des MDH, ce qui a été, combien de personnes ont voté, en fait, par rapport au nombre de votants total, et comparer ça avec le pourcentage de population par secteur. Par exemple, la MDH Chaurier-Béréa, ça correspond à peu près à 17% de la population totale de Grenoble. Et pour ce qui est de la comptation des votes, ça représente 34% des votes, en fait. Donc, ça veut dire que c'est deux fois plus représenté que ce que ça devrait. Donc, pour le secteur du centre-ville, on est plutôt à 0,7. Donc, moins représenté que ce que ça devrait. Pareil pour le secteur 3, donc Mistral-Auclair, plutôt on est aux alentours de 0,7. La Capuche aussi. Pour Tesserre, on augmente un petit peu, plutôt 0,85. Et pour Villeneuve, on est à 1,3. Donc un peu plus représenté. Je me suis amusé ensuite à rééquilibrer ça avec le système de vote qu'il y avait eu. Si on considère que les gens qui ont voté sont un vrai échantillon, on peut rééquilibrer et voir si tout le monde avait voté avec une participation égale en fait dans chaque secteur, qu'est-ce que ça donnerait. Et finalement, pour tout ce qui est petits projets, ça varie très peu. C'est même les mêmes projets qui ont été sélectionnés. Par contre, pour les gros projets, le projet lauréat ne serait pas la végétalisation du cours Jean Jaurès, mais l'atelier. Donc c'était un petit atelier de réparation d'électroménager, un peu sur le principe de pignon sur roue, mais avec de l'électroménager. Voilà. Donc ça, c'était pour un petit rappel sur le budget participatif.
Après, on peut juste faire une analyse en expliquant que beaucoup de projets sont des projets de projets retenus, font partie du nord de la ville, qu'à part l'atelier de pignon sur roue et 3 projets dans le quartier Tesserre, Bijoux, tous les autres projets font partie du nord de la ville. Et on peut aussi analyser les votes. Moi, je me suis pareil amusé un peu à regarder les votes. Et par exemple, les gens de la Villeneuve ont massivement voté pour les projets de la Villeneuve, donc les gens du quartier. Donc voilà. Après, il y avait une réflexion peut-être à limiter le budget participatif par quartier, que chaque quartier ait son budget participatif, qui pourrait peut-être contrebalancer un peu ce résultat de vote.
Oui, je crois que c'est une piste sur laquelle la ville est en train de travailler. Eh bien, on va en profiter pour parler de l'article du Monde qui a parlé de la rénovation urbaine à la Villeneuve.
Oui, alors, mercredi 19 octobre, donc il y a eu un article qui est paru dans Le Monde sur la situation dont vous avez parlé la semaine dernière sur la rénovation urbaine et le fait que l'ANRU, donc l'Agence nationale de rénovation urbaine, qui finance les projets de toute la France, de toutes les communes qui déposent un dossier de rénovation urbaine pour leur quartier politique de la ville. C'est un peu complexe. Voilà, donc c'est eux qui financent en partie les réhabilitations, mais aussi les démolitions quand il y en a besoin. Alors ce qu'on vous avait expliqué, c'est que la démolition n'est plus une condition pour être financée. Donc on a le droit de faire des projets de rénovation sans démolition pour, et de demander un financement de l'État. Actuellement, donc l'Agence nationale de rénovation urbaine demande, en contrepartie d'un financement, de faire une étude sur une éventuelle démolition à la Villeneuve. Alors, une étude, ça demande de l'argent, c'est déjà une forme d'engagement et une manière de réfléchir le projet urbain. Donc, c'est un peu ce qu'on a pu critiquer au sein des ateliers populaires d'urbanisme, mais bon, voilà. Et puis d'autres habitants qui n'en font pas partie d'ailleurs. Voilà, alors donc il y a une journaliste du Monde qui est venue dans le quartier, qui est venue à Grenoble en fait, qui a interviewé le maire, le président de la métro, des habitants du quartier de la Villeneuve, alors principalement des personnes qui ont participé aux ateliers populaires d'urbanisme. Voilà, c'est pas tous les habitants du quartier. Donc ce qui ressort de cet article est intéressant parce que ça donne une visibilité au niveau national sur ce qui est demandé. On a le discours d'Éric Piolle qui donc nous parle que lui, il serait pas pour la démolition, mais pour plutôt une rénovation des logements, mais dans un but de sélectionner, enfin d'augmenter le prix des logements et de sélectionner des salariés solvables. Alors bon, on peut se poser la question de cette logique-là aujourd'hui quand on sait qu'il y a besoin de logement social et que finalement le chômage avance. Donc les salariés solvables seront-ils là pour louer des appartements? Ça reste une question politique à traiter. Enfin bref, on a aussi on a des phrases du président de la métro sur le fait qu'il faut un projet attractif pour la métropole de demain. Alors, nous ne savons pas quel est ce projet attractif. En tout cas, si c'est à base de démolition, ça peut être une façon de voir les choses. Alors, moi, je voulais revenir sur un aspect de l'article très rapidement. Parce que quand même, on se rend compte qu'au niveau national, il y a toujours cette même manière de traiter le quartier populaire de la Villeneuve. C'est une utopie. Alors, donc, on en parle toujours. Donc, petit rappel, l'utopie, c'est un mot inventé par Thomas More en 1516. Donc, ça parle, en fait, la définition même, cela signifie « nulle part ». Donc ça voudrait dire que la Villeneuve, étant une utopie, elle n'existe pas, elle n'est pas à Grenoble, elle n'est nulle part, et c'est une réalité irréelle. Alors moi, ce que j'avais envie de dire là-dessus, c'est que peut-être que les gens qui ont imaginé la Villeneuve avaient une vision utopique, c'est-à-dire une vision qui était à l'envers de ce qui se faisait au moment où elle a été construite, c'est-à-dire on espérait changer les choses, faire mieux, montrer comment le monde tournait sur la tête à ce moment-là et du coup penser autrement. Mais en aucun cas, c'était de construire une utopie parce que du moment où elle est réelle, elle se confronte à la réalité des choses et elle s'inscrit dans un monde, dans un pays, voilà. Et donc on est bien face à des problèmes réels et on doit construire cette réalité tous les jours, voilà. Et donc, pour construire cette réalité tous les jours, si le maire ne veut pas qu'il y ait des démolitions, il peut prendre exemple sur les élus, par exemple, de Gennevilliers, mairie communiste de la banlieue parisienne, qui est allé voir tous les habitants concernés par la demande de démolition, donc également formulée par l'ANRU, d'une tour. Ils sont allés toquer à la porte de chaque habitant. Et ils ont proposé de signer une pétition et d'aller manifester devant l'ANRU pour dire que ils n'étaient pas d'accord sur le fait qu'il fallait démolir, mais plutôt qu'il fallait envisager de valoriser au niveau paysager les quartiers et de réhabiliter les logements qui étaient de qualité et qui répondaient encore aux besoins d'aujourd'hui. Voilà, donc ils ont été une centaine devant l'ANRU en pleine semaine. Donc c'est plutôt pas mal comme mobilisation et ça montre que si une mairie elle a envie de créer un rapport de force avec l'État parce qu'elle n'est pas d'accord avec ce qu'on lui impose, c'est possible. Voilà.
Merci Morgane. On va enchaîner avec une petite pause musicale avec les White Flag, ce quatuor féminin se paye le luxe de réunir les deux tiers des Sleater-Kinney, le groupe punk féministe américain des années 90-2000. White Flag, c'est la même chose, mais en mieux. Riff teigneux et voix hautaine, ce titre est parfait. On écoute White Flag, Electric Band.
Alors on enchaîne maintenant avec Morgane et tu vas nous parler du PUCA.
Oui, alors je ne vais pas vous parler que du PUCA. En fait, le PUCA, c'est le plan urbanisme, construction et architecture. C'est un organisme interministériel qui finance la recherche urbaine. Alors en gros, c'est 15 personnes dans un bureau à la Défense qui montent des programmes pour financer les laboratoires de recherche des écoles d'architecture et de les universités, les facs d'urbanisme. Mais aussi sur la construction, sur comment étudier ce qui se produit aujourd'hui et réfléchir à comment on pourrait faire mieux pour demain. Voilà, donc en gros, il y a 2 ans, ils ont lancé un programme qui s'appelait le hors-champ de la recherche urbaine. Et pratiquement, en fait, c'était l'idée de financer des personnes qui ne sont pas forcément dans des laboratoires de recherche. Donc ça peut être des associations, personnes indépendantes, des professionnels, sur leur pratique pour voir comment ces personnes-là, dans leur manière de travailler, elles proposaient des choses qui pouvaient être intéressantes et qui n'étaient pas forcément reconnues dans le monde de l'architecture et de l'urbanisme. Alors, il y a des personnes assez différentes qui ont participé, dont l'association Planning qui travaille avec les ateliers populaires d'urbanisme de la Villeneuve, d'autres collectifs dans différentes villes. Je vous présente juste le fait qu'on a été accueillis à Saint-Étienne par le collectif Carton Plein, qui est qui travaille sur l'espace public, et ils se sont appelés comme ça parce que c'était sur la friche d'une ancienne cartonnerie. Et alors ils nous ont présenté que à Saint-Étienne, la ville était décroissante, c'est-à-dire qu'elle perdait ses industries et ses habitants, et qu'en fait ils avaient plein d'endroits dont ils savaient pas quoi faire, et surtout très peu de moyens. Donc en fait ils sont dans une réflexion sur comment faire la ville avec très peu de moyens mais plein d'espaces disponibles. Voilà, donc c'est pas du tout notre problématique à Grenoble.
Nous, on n'a pas de moyens, mais pas d'espace.
C'est ça. Et du coup, et puis on a surtout beaucoup de pression des gens qui veulent faire du fric, comme on dit, les promoteurs immobiliers et les entreprises. Et souvent, l'idée, c'est de virer les pauvres. Bon, c'est un peu caricatural, mais tout ça pour vous dire qu'on a présenté la recherche qui a été faite dans les ateliers populaires d'urbanisme par l'association Planning, et que vous pouvez lire dans un petit livre qui a été publié qui s'appelle « Plaidoyer pour Villeneuve ». Si vous voulez le trouver, suffit de taper dans le moteur de recherche le titre du livre « Plaidoyer pour Villeneuve » ou de chercher sur le site du certu-catalogue.fr. Voilà, et bien je vous laisse découvrir, peut-être qu'on vous le présentera mieux. En tout cas, on est allé à cette présentation, moi-même, Morgane et Shedley, des ateliers populaires d'urbanisme, et c'était rigolo parce que c'était le seul habitant de tout le colloque où il y avait 180 personnes. Voilà.
Merci Morgane, on arrive bientôt au terme de l'émission. Benjamin, tu vas nous parler de la prochaine émission finalement.
Oui, avec un petit teaser de la prochaine émission, puisque la semaine prochaine, on va recevoir Mariano Bona, président de l'association L'Algérie au cœur. On va le recevoir puisque lundi 17 octobre, une plaque en mémoire des victimes du 17 octobre 1961 a été dévoilée par Éric Piolle, place Edmond Arnaud. Donc la place Edmond Arnaud, elle est située en plein cœur du quartier Almatricloître, qui est le cœur historique de l'émigration maghrébine à Grenoble. Donc un petit rappel sur le 17 octobre 1961. Donc en fin d'après-midi, une manifestation d'Algériens à Paris est réprimée par la police française. Les Algériens manifestent pour l'indépendance de l'Algérie et bravent le couvre-feu imposé aux Maghrébins. Donc à l'époque, on ne disait pas Maghrébins, on disait Nord-Africains. Des Algériens sont jetés dans la Seine, d'autres sont frappés, arrêtés et placés en centre d'internement. La répression policière a fait entre 100 et 200 morts selon les historiens. Alors pour rappel, le préfet et chef de police à l'époque s'appelait Maurice Papon, ancien secrétaire général de la préfecture de Gironde pendant l'occupation et responsable de la déportation de plusieurs juifs. Donc voilà, c'était pour un peu rappeler ce qu'était le massacre du 17 octobre 61. Donc une plaque en mémoire de ces victimes a été dévoilée. Il y avait à peu près 150 personnes à cette cérémonie. On va écouter l'introduction musicale de la cérémonie qui a été chantée par Antonio Placer, qui est donc un chanteur et le directeur du théâtre Sainte-Marie d'en Bas, qui est le théâtre situé juste en face de la place Edmond Arnaud. Puis le discours donc de Mariano Bona, président de l'association L'Algérie au cœur. On écoute le reportage.
C'est avec une grande émotion que je vous accueille ici, bien plus que ce que je pensais, mais voilà, c'est ainsi. Cet événement est l'aboutissement de beaucoup d'années de travail, de beaucoup de gens à Grenoble. Alors, je pense qu'il faut quand même revenir sur les faits, parce qu'il faut mettre des mots sur ce qui a été occulté, laissé sous le tapis pendant autant de temps. Il est quand même inouï qu'en plein Paris, à une heure de grande affluence, il puisse y avoir une répression aussi sauvage contre des manifestants pacifiques qui étaient venus en famille, en dimanche, avec la simple volonté de dire leur attachement à la dignité et leur volonté de maîtriser leur destin. Puisqu'il faut mettre les mots, il faut dire que la police, à ce moment-là, sous les ordres de Maurice Papon, a répondu à coups de matraque, à coups de crosse, à coups de fusil, a jeté, a torturé, que de nombreuses familles ont été endeuillées, parfois même n'ayant même pas la consolation de retrouver le corps des victimes passées dans l'oubli. Il y a eu d'autres manifestations dans les jours qui suivirent, et je tiens à mettre en mémoire celle des femmes, parce que les femmes, dans la guerre d'Algérie, dans la résistance algérienne, ont joué un rôle important et il faut le souligner. Et le 20 octobre 61, les femmes ont manifesté avec les mots d'ordre « Abat le couvre-feu raciste, libération de nos époux, de nos enfants, indépendance totale de l'Algérie ». Après ce tragique octobre 1961, une chape de plomb s'est abattue sur ce massacre. Le commun des consciences, jamais mentionné, jamais enseigné. Il a fallu le travail courageux d'historiens comme Jean-Claude Hennaudy, l'auteur de la bataille de Paris, pour que cette chape se fissure. Il a fallu l'activité tenace de collectifs militants comme celui de Grenoble et les manifestations régulières pour que l'exigence de vérité grandisse dans notre pays. À Grenoble, et je remercie le maire de Grenoble de l'avoir signalé, et je pense que c'est effectivement une des fiertés de la ville, depuis près de 30 ans, des centaines et des centaines, des milliers de Grenoblois et de Grenobloises manifestent chaque année pour que la vérité soit faite, pour que la mémoire reste vivante, pour que le massacre ne soit pas oublié. Et d'ailleurs, cette année encore, après la cérémonie, qui est un moment important, nous manifesterons pour rendre hommage aux victimes et dire notre exigence de vérité. Et c'est pour cela que nous vous invitons à rester pour participer avec nous à cette manifestation et les fleurs seront jetées dans l'hiver. Merci de votre attention.
Voilà, c'était donc le discours de Mariano Bona lors du dévoilement de la plaque en hommage aux victimes du 17 octobre 1961. Donc on recevra Mariano Bona lors de la prochaine émission au Ras des Rues, ça sera le vendredi 28 octobre.
Eh bien merci Benjamin. Justement, à la semaine prochaine, on tient à remercier tous les auditeurs qui nous ont écoutés. Je rappelle que vous pouvez nous écouter mercredi prochain en rediffusion de 11h à midi, donc sur Radio Kaleidoscope 97 FM. Ou alors en podcast sur le site du Crieur. Si vous voulez nous contacter par mail, auraderues@lecrieur.net ou sur Facebook sur notre page auraderues-rks97fm. Merci et à la semaine prochaine.
Au revoir.
Au revoir.
C'était Au Ras des Rues, l'émission qui, espérons-le, vous a fait prendre de la hauteur sur Radio Kaléidoscope 97 FM. À la prochaine. Yeah.